Europe 1,
23h, 1h,
La Libre Antenne, Sana Blanger.
Chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce soir jusqu'à 1h du matin dans la Libre Antenne d'Europe 1. Je souhaite commencer cette émission par une citation que je partage totalement par sa justesse. Si tu cherches encore cette personne qui changera ta vie, regarde-toi dans le miroir. C'est écrit par Roman Price, un jeune auteur américain. La Libre Antenne est votre émission et nous sommes tous là, ensemble, pour se soutenir, pour trouver une réponse, une solution ou une simple écoute sans jugement et bienveillante. Appelez-nous au 3921 et racontez-vous. Ce soir, je vous propose d'avoir une pensée de soutien pour tous ceux qui recherchent la sérénité après un traumatisme. Nous sommes là pour vous apporter du réconfort, une écoute, une solution, mais la suite vous appartient. Catherine et Oscar vous attendent au standard et c'est Andreas Papazian qui est aux commandes et réalise l'émission de ce soir. Allez, j'attends vos appels au 3921. Pour nous joindre par SMS, vous composez le 73921 en commençant par le mot nuit et par mail libreantenne@europe1.fr.
Europe 1, la Libre Antenne.
Sana Blanger.
Alors avant d'accueillir notre premier auditeur, je vous invite à échanger demain sur le thème de la pression sociale et de ses conséquences sur nos choix de vie. En effet, quel comportement avez-vous adopté pour ne pas vous sentir piégé par toutes ces lois, ces règlements, ces normes et ces conventions? Comment faites-vous pour prendre de la distance par rapport à tous ces modèles que vous impose ou nous impose la société? Ou encore, si vous ressentez que vous êtes une victime de la perfection collective, venez nous en parler dès demain. Et tout de suite, nous accueillons notre première auditrice, et c'est Pauline. Bonsoir Pauline.
Oui, bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci beaucoup.
Pauline, que se passe-t-il?
Eh bien moi, je voulais vous raconter une petite partie de mon histoire.
Oui.
Donc en fait, il y a 6 mois, suite à une fatigue un petit peu soutenue, mon médecin traitant m'a fait passer un IRM cervical.
Oui.
Donc, suite à cet IRM, je suis sortie de cet IRM. La personne qui a vu les images m'a dit, il n'y a pas de souci, pas de problème, voilà, vous pouvez rentrer chez vous sans voir votre médecin ni rien. Bon, ben moi, c'est ce que j'ai fait, bien sûr.
Oui.
Et puis j'ai mon médecin traitant qui me rappelle 2 mois après, qui me convoque. Et là, en fait, qui m'annonce que, en fait, sur cet IRM, il y a des tâches. Donc, des tâches qu'elle voit comme ça. Donc là, elle m'évoque la sclérose en plaques.
Oula.
Donc,
ouais.
Tout de suite, comme ça. Donc, moi, j'ai eu l'impression, en fait, si vous voulez, qu'un immeuble s'abattait sur moi.
Ben
enfin,
oui.
Ça m'a fait vraiment cette impression-là.
Oui.
Je suis dans le soin. Je soigne des personnes qui ont la sclérose en plaques. Donc, tout de suite, j'ai paniqué, vraiment paniqué. Elle a vu, je pense, un peu son erreur, entre guillemets. Parce que du coup, j'étais vraiment très mal. Donc, suite à ça, elle travaille dans le même cabinet avec une neurologue.
D'accord.
Et elle m'a dit, je vais essayer de vous avoir un rendez-vous rapidement avec cette neurologue.
Oui.
Voilà. Donc, tout s'est allé très vite. 3 jours après, j'ai eu le rendez-vous.
Oui.
Donc, cette fameuse neurologue regarde les images et en fait, elle dit, en effet, vous avez 32 ans, les images m'évoquent une sclérose en plaques. Donc, elle commence à me parler des traitements. De la répercussion de la maladie qu'il peut avoir sur une jeune femme de 32 ans, donc par rapport aux enfants, à plein de choses.
Mmh.
Donc moi, je m'effondre. Alors là, elle me dit que je pourrais être un enfant et je pourrais avoir un cancer, que ça pourrait être pire. Donc moi, c'est des mots que je ne voulais pas entendre, pas du tout, et je pense que personne d'ailleurs
ne
voudrait entendre.
Eh oui.
Donc là, c'est vrai que suite à ça, elle a dit quand même qu'il faudrait faire une ponction lombaire. Pour avoir la vérification. Donc, suite à ça, une semaine après, elle me fit de la ponction lombaire à l'hôpital. Bien sûr, elle ne m'avait pas du tout prévenue des conséquences de cette ponction lombaire. Ça fait très, très mal et j'ai été alitée pendant une semaine derrière. Enfin, bon, j'ai eu quelques complications.
Oui.
Et puis, les résultats, j'ai dû attendre un mois parce qu'elle est partie 2 semaines en vacances. C'est 2 semaines plus les 2 semaines où elle était en vacances. Donc là, c'est l'attente insupportable parce que...
Oui, j'imagine.
Parce que voilà, on ne sait pas et oui. On se demande où est-ce qu'on va. Quoi.
L'inconnu donc, qui fait peur.
La famille, les amis sont là-dedans et c'est vrai que c'est très stressant pour tout le monde. C'est et vrai. Encore, je suis bien soutenue.
Oui.
Je n'ose même pas imaginer des gens qui le sont moins et qui sont beaucoup plus seuls. Enfin bon, ça a été... Bon. Elle m'a fini par me rappeler pour me dire que les tests étaient négatifs. Donc que ce n'était pas la sclérose en plaques. Donc moi j'étais super contente au téléphone. Et là de suite elle me dit non mais c'est pas aussi simple que ça. Donc là elle me dit on va falloir faire des tests génétiques pour voir vraiment ce que c'est. Et là en fait j'ai dit stop. J'ai dit non, j'ai eu peur. J'ai dit maintenant ça suffit. J'ai plus confiance en elle de toute façon. Donc voilà j'ai pas maintenu. Et je suis allée voir un autre neurologue.
Oui.
Qui lui m'a dit que j'avais été un peu victime du système, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû me faire ni d'IRM, ni de ponction, ni rien, parce que je n'avais pas de symptômes. Donc en fait, le truc aujourd'hui, c'est que normalement, on a des images, mais on a aussi des symptômes. Et les images sont là pour confirmer les symptômes.
Ouais.
Or, moi, j'en avais pas. Donc ils ont fait les choses un peu à l'envers. Voilà. Donc
justement, parce que justement, Pauline, j'allais vous poser la question. Est-ce que pendant toute cette période, qui a duré combien de temps à peu près entre le moment où vous avez rencontré ce médecin, qu'elle vous a fait passer toute cette batterie d'examens, et encore, il y en a une que je n'ai pas entendue, dont je vais vous parler juste après, il s'est écoulé combien de temps ?
C'est allé très vite, en fait. En un mois, j'ai tout fait.
Mais est-ce que vous ressentiez encore toujours autant de fatigue ?
En fait, je travaille de nuit, donc j'ai faisais beaucoup d'heures. Donc en fait, cette fatigue-là, mon autre neurologue l'a mis en fait sur le compte de mon travail. Et en fait, mon travail de nuit justifiait ma fatigue. Donc en fait, c'est pour ça que non, après, ça allait mieux. Je me suis reposée et ça allait mieux.
Et vous a-t-on fait faire juste une prise de sang, c'est-à-dire le béaba quand on va chez le médecin et qu'on parle de fatigue, ne serait-ce que pour faire un bilan vitaminique.
Bien sûr, j'ai eu tous les bilans possibles. Vous savez, après, pour les maladies type zona, type maladie de Lyme, j'ai tout eu, de fond en comble, j'en ai eu 3, et tout était normal, quoi. Tout est normal.
Donc là, en fait...
Sauf cette IRM.
Erreur médicale, clairement.
Je sais pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tâches. Elles sont là.
Ah oui, donc il y a bien quelque chose.
Il y a quelque chose. À l'imagerie, il y a quelque chose. Après, il y a quelque chose comme certainement, ou peut-être, les 3/4 de la population qui ne font pas d'IRM. On ne sait pas, en fait, d'où ça vient. On ne sait pas. Et c'est vrai que ma neurologue me disait, mais vu les tâches, vous devriez avoir des symptômes, vous devriez avoir des problèmes de vue. Je disais, mais je n'ai aucun problème de vue. Et ce que je disais, mais à force de me le dire, vous allez me rendre malade. Je vais arrêter parce que je n'ai pas de symptômes, j'en ai pas, je ne peux pas les inventer.
Oui.
Donc ça, c'était assez terrible pour moi.
Vous travaillez en milieu hospitalier, c'est ça ?
Non, je m'occupe de personnes handicapées à domicile.
D'accord. Et donc, vous travaillez de nuit ?
Je travaille de nuit, oui.
D'accord. Bon, je pensais que vous étiez en milieu hospitalier et éventuellement...
Non, je ne suis pas en milieu hospitalier. Non.
Et donc, le nouveau neurologue, qu'est-ce qu'il vous propose alors ?
Lui, il me dit de vivre.
Ah bah oui.
C'est la première chose qu'il m'a dit. Je suis allée avec une copine à moi parce que j'avais besoin de soutien.
Vous avez besoin d'un soutien, oui.
Et il m'a dit, mais il faut que vous viviez. Mais comme je dis, c'est facile à dire. Mais quand on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, autant quand on ne sait pas, c'est une chose. Mais quand on sait, c'est beaucoup plus dur. Et donc
très
là,
compliqué.
Quand j'ai mal à la tête, quand j'ai des problèmes, des fois, la fatigue, on a les yeux qui sautent un peu, on a les yeux un peu qui se troublent, tout de suite, ça m'angoisse. Enfin, du coup, c'est difficile. Et lui me propose d'autres images pour confirmer un petit peu, en fait.
Oui.
Donc d'aller vraiment chez un professeur qui va pouvoir vraiment me faire des IRM beaucoup plus poussées parce qu'il avait un doute sur une ou deux images, il a dit c'est pas très clair, mais par contre je sais pas aujourd'hui si je le fais, il m'a pas recontacté, il devait me recontacter, il l'a pas fait et je peux vous dire qu'en ce moment je suis en réflexion de savoir si je vais plus loin ou si je fais ce qu'il me dit, c'est-à-dire vivre et puis il y a le jour où j'aurai des symptômes et on en vivra.
J'ai envie de vous dire, oui, forcément, Pauline, forcément. En même temps, si c'était grave ou sérieux, parce qu'il faut faire le distinguo entre situation sérieuse et grave, vous seriez probablement beaucoup plus prise en charge, ou sinon déjà à l'hôpital. Enfin, sans être trop optimiste, hein, mais je me dis, voilà, en étant logique et rationnelle comme vous, probablement.
Je sais.
Et voilà. Donc là, vous êtes chez vous, avec vos amis, avec votre famille. Effectivement, profitez. Vivez, il a entièrement raison. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est cette épée, enfin, c'est de ne pas savoir exactement ce que vous avez.
C'est ça.
Et là, je vous comprends.
Est-ce que je le saurai un jour ? C'est ça, on ne sait même pas, en fait. Le truc, c'est que dans les maladies comme ça, quand ça touche les maladies neurologiques, il y en a tellement, il y a tellement de choses qui sont... et puis, ça se peut, enfin, comme m'a dit mon neurologue, le deuxième, il m'a dit, il se peut que vous n'ayez jamais rien. Là, vous, on a des images. Si on faisait aujourd'hui un scanner ou un IRM à peut-être à certaines personnes, il y en aurait aussi sans qu'ils aient jamais rien.
Oui. Mais
vu qu'on ne peut pas... Voilà. Ils ont été... Ce que je me dis, c'est que c'est fou. Aujourd'hui, moi, je travaille un peu dans le médical.
Oui.
Et je vois des gens qui sont diagnostiqués de choses graves extrêmement tard. Je me dis, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je n'avais rien. Et que on m'a, c'est vraiment un excès de zèle, quoi. C'est qu'il y a eu trop de choses. Et ça me questionne aussi là-dessus. Je me dis, c'est pas logique tout ça, quoi. C'est pas logique. Il devrait pas y avoir ce genre de choses aujourd'hui. Enfin, pour moi.
Dans mon entourage, je connais une personne qui, il y a 30 ans, a fait une radio des poumons et il y avait des taches. Cette personne vit toujours et elle n'a absolument pas développé de cancer. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très étranges. Donc,
que la médecine aujourd'hui ne peut pas vraiment expliquer, finalement.
Pas encore, oui, absolument.
C'est vrai. C'est
donc là, les symptômes d'avoir... quels sont les symptômes que vous avez, Pauline ?
Ah, j'en ai pas. Je n'ai aucun symptôme.
Vous n'avez rien ?
Rien. Bon. Je suis en pleine forme.
Ah ben, tant mieux. Vous parlez de vision qui se trouble.
En fait, j'ai expliqué qu'il y a des fois où quand on est fatigué, vous savez, on a les yeux qui sautent un petit peu.
Oui.
Ou alors, on a des fois, ça arrive que quand on fixe trop longtemps son téléphone ou la télé, on a la vision.
Ouais.
Et c'est vrai que du coup, moi, ce sont des choses qui m'angoissent alors que c'est juste la fatigue visuelle. Ça dure 2 secondes, mais ça me rappelle à chaque fois à cette épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête. Et du coup, c'est dur pour moi aujourd'hui de vivre, entre guillemets, normalement. Il y a des jours où ça va,
mais
il y a des jours où ça va pas. Et je me dis aujourd'hui, je sais que je suis pas la seule. Je sais que la maltraitance, parce que je suis suivie aujourd'hui par une psychologue, et on a parlé de maltraitance parce qu'il y a eu des mots qui n'auraient pas dû être là, parce que le soutien du médecin, il a été quasiment nul. Et moi, je pense aux gens qui sont moins soutenus que moi, et je me dis que ça doit être très très dur pour eux, vraiment. Mmh.
Je repensais aussi à autre chose. Autre symptôme qui, au niveau des yeux, qui nous fait comprendre aussi que nous sommes fatigués, c'est la sensation des yeux qui brûlent. Ça fait quand parfois on a le sentiment que les yeux brûlent. Et en fait, quand on est fatigué, on cligne moins des yeux. Et c'est un des symptômes aussi qui nous fait comprendre que nous sommes fatigués. Le fait de cligner moins les yeux, donc ça assèche. Ça assèche les yeux et donc ça brûle. Alors, je reçois des SMS, dont un. Alors c'est pas signé, nous avons vécu le même scénario avec notre fils, dépistage neuroblastome à 5 mois, pas de symptômes, tache au foie, tumeur surrénale qui ont régressé spontanément, nous avons vécu l'enfer par la faute d'une étude décidée par des médecins. C'est voilà, donc là effectivement...
À toutes ces personnes. Je sais que je suis pas la seule.
Ouais.
Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont embringués dans un truc. En fait, moi, je me suis sentie embarquée dans un truc que je ne maîtrisais pas. Quelque chose où je me suis dit, je n'ai plus la main sur ça.
Ouais.
Quelqu'un a la main sur ma santé, sur ma vie.
Oui, c'est ça.
Sans que j'ai finalement le droit de décider quoi que ce soit.
Oui, je comprends.
Et ça, c'est terrible. C'est terrible.
Oui, c'est pas agréable du tout. Du tout. Alors, vous avez reçu également un SMS de Michel. Merci, Michel. On appelle cela un surdiagnostic. Et si vous le souhaitez, échanger avec Michel par la suite.
Oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr.
Il vous a laissé son numéro. Alors, moi, ce que je vous propose, si vous êtes... c'est de faire une toute petite pause et je vous reprends juste après.
Bien sûr.
D'accord. À tout de suite, Pauline.
Pour joindre Sana Blanger, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Nous nous retrouvons. Pauline, est-ce que ça va depuis tout à l'heure ?
Très bien, merci.
Bon, alors, vous avez reçu un autre SMS pour vous. Alors, bonsoir Pauline, que Pauline se rassure. J'ai travaillé en radio dans un CHU. La lecture est très, très difficile. Qu'elle passe une autre IRM pour plus de sûreté. Et c'est Marie-Josée qui vous envoie ce SMS.
C'est très gentil, merci elle.
Bon.
Prends le conseil.
Voilà, merci beaucoup Marie-Josée. Quant à vous, Pauline, effectivement, vraiment, il y a eu peut-être ce surdiagnostic ou en tout cas le fait que actuellement vous êtes un peu plus surveillée que la normale. Mais je suis entièrement d'accord avec ce médecin qui vous a conseillé de vivre. Alors bien évidemment, c'est pas de faire comme si ça n'existait pas, parce que ça y est, c'est dans un coin de votre tête.
Ouais,
c'est presque ancré même, je dirais. Mais pour le moment, tant que ça va, vous avez complètement raison de vous dire « Ok, j'envisage, je ne change pas d'un iota le programme de ma vie. »
Oui, au contraire, moi j'ai décidé un peu de le changer un peu plus rapidement que prévu. J'ai décidé voilà, de changer un peu de travail, de penser beaucoup plus à moi finalement, et je crois que c'est pas plus mal finalement. Après, j'essaie de tirer le maximum de positif de tout ça. Voilà.
Ouais.
Donc, je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire parce que, voilà, il y a que comme ça qu'on peut vivre après de manière plus ou moins voilà, sereine, on va dire.
Ah, c'est exactement ça. Et là, je repense au premier jour du reste de ta vie, vous savez ?
Oui, c'est ça. C'est ça.
Oui.
C'est exactement
ça. J'ai reçu un autre SMS qui n'est pas signé. Donc, je conseillerais à cette jeune femme de lire un livre qui traite joliment de la maltraitance médicale. C'est un roman très agréable à lire, écrit par un médecin à la sensibilité qui force l'admiration. Oh, dis donc. Alors, ça s'appelle « Le cœur des femmes ».
Oui.
De Martin Winkler. Alors, ça s'écrit D'accord. W-I-N-C-K-L-E-R. Martin Winkler. Pauline, ce que je vous recommande aussi, c'est d'écouter cette émission demain en podcast. Hein, de façon à ce que là, l'émotion, parce que parfois quand on nous appelle, qu'on est en direct, on n'entend pas tout. Mais vous pourrez réécouter demain. Alors, autre SMS de Kat qui dit « Bonsoir, alors ne vous plaignez pas d'avoir bénéficié d'autant d'examens face à d'autres qui doivent ramer pour les obtenir. C'est l'écueil parfois de tous les examens qu'il est possible de faire aujourd'hui. »
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Bon, vous au contraire, votre témoignage est de dire que vous pensez justement à toutes ces personnes qui traversent cette période où on ne sait pas et qu'on est seul et que c'est pas évident.
Je me dis que il faut se soutenir et que voilà, j'ai une pensée forte pour elles parce que je sais à quel point ça a été dur d'être dans l'attente.
Oui.
Et voilà, moi j'ai peut-être de la chance d'avoir eu tous ces examens. Voilà, peut-être ou pas, mais en tout cas, voilà, après c'est comme ça.
Oui. Bon.
Ça fait partie de mon histoire.
Oui, ça peut. Qu'est-ce que vous en retirez de cette histoire alors, justement ?
Ben, pour l'instant, je vous avoue que je suis encore un peu trop dans l'émotion pour pouvoir vraiment faire le point.
Oui.
Je travaille en EMDR depuis peu de temps, donc ça va me permettre de passer un peu le traumatisme. De tout ça.
Oui.
Et je pense qu'après, derrière, ça va être une force pour moi, je pense. J'espère.
Ça le sera forcément vu et au vu de la façon dont vous abordez cette étape, cette épreuve.
Mm-hmm.
Y a beaucoup, j'entends beaucoup de courage de votre part. Vous voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Enfin, et c'est pour cette raison que je suis déjà... Alors, c'est peut-être un peu... je dirais prématuré de vous poser cette question-là, mais il y a une telle maturité déjà, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure ce que vous en tirez déjà comme leçon, parce que vous faites front, en fait.
Ben, je pense que voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et là, on m'a mis devant le fait accompli, quoi. Donc oui, lâcher prise, pas totalement, parce que voilà, comme je vous dis, là, c'est un jour où ça va. Y a des jours où voilà, on est fatigué, des jours où on a mal aux yeux et on se dit mince, est-ce que c'est pas la maladie qui arrive? Est-ce que cette voilà et bon, ça va être toujours comme ça. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour être plus sereine. Voilà. Je crois que c'est le mot.
Ben justement, c'est également le message de Robinson qui vous dit personnellement après de bonnes vacances, je choisirai un IRM plus poussé pour en avoir le cœur net et ne plus m'inquiéter par un mal de tête ou une fatigue et être pleinement sereine. Courage.
Merci beaucoup en tout cas pour tous ces SMS.
Oui,
merci beaucoup.
Ah oui, là ça réagit beaucoup à votre témoignage. Vraiment.
C'est très gentil, merci.
Je peux vous poser une dernière question, Pauline ?
Oui, bien sûr.
Alors, vous avez identifié que c'est le fait de travailler le soir qui pouvait éventuellement vous fatiguer. Est-ce que vous envisagez par la suite de peut-être aménager un planning plus facilitant pour vous, plus aménagé par rapport à ce que vous traversez ou ce que vous vivez, par exemple ?
Ben, de toute façon, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie.
D'accord.
Et ça en est un. Donc, c'est que j'arrête mon travail au mois de septembre, là, début septembre. Ah. Voilà, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de me former à une autre technique de soins. J'ai envie de voir mon métier différemment. Donc, de toute façon, là, voilà, j'arrête au 5 septembre pour aller me former et essayer de trouver quelque chose, oui, je pense, qui me fatigue un peu moins et qui me permet, d'être mieux, oui, je pense, physiquement.
Mais en tout cas, vu l'empathie que vous faites preuve vis-à-vis des autres personnes, je suis persuadée que vous allez exceller dans ce que vous allez faire, vraiment.
J'espère.
Ah oui, c'est certain.
Être une bonne soignante, de toute façon, c'est important pour moi.
Oui, ben, en tout cas, ça s'entend. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour
merci
la suite,
beaucoup, en tout cas,
Pauline.
Pour tous ces SMS, et merci à vous.
Merci.
Passez une bonne soirée.
Vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1.
Sana Blanger.
Nous nous retrouvons en direct et je vous rappelle le thème de demain soir. Je vous invite donc à échanger sur la pression sociale et de ses conséquences sur nos choix de vie. Je voudrais savoir quel comportement avez-vous adopté pour ne pas vous sentir piégé par toutes ces lois, ces règlements, ces normes et ces conventions. Comment faites-vous pour prendre de la distance par rapport à tous ces modèles que vous impose la société ? Ou encore, si vous ressentez que vous êtes victime de la perfection collective, venez nous en parler demain. Nous recevons maintenant notre auditeur qui est Cédric. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci beaucoup. Je suis un petit peu... Je vais essayer d'imaginer que je suis qu'avec vous pour mon sujet. Enfin...
Mais nous ne sommes que tous les deux.
Voilà. Donc, parce que déjà, il y a un peu de changement quand même. J'ai prévenu la personne au standard que j'avais déjà appelé hier soir.
Oui, Oscar.
En fait,
vous avez eu Oscar.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ouais.
C'est ça. Et donc, déjà, je vous aurais eu au téléphone hier. Ça aurait été différent de ce soir parce qu'il y a des SMS qu'on confusait avec la personne avec qui j'ai des soucis depuis hier soir. Hier soir, j'étais vraiment vraiment très très déçu. Je pensais vraiment que c'était la fin d'une histoire avec quelqu'un. Et finalement, on peut dire qu'il y a une sorte de rebondissement. Mais
ah, génial.
C'est peut-être moi qui... Oui, mais bon, je ne sais pas si c'est pas un peu moi qui veux aussi me donner de l'espoir sans forcément y croire, en fait.
Et si on commençait déjà par le commencement ? Parce que c'est le suspense.
Mais je pense que c'est assez simple parce que bon, ça fait même pas un mois que j'ai connu cette personne.
D'accord.
Voilà, donc...
Donc c'est une histoire sentimentale là, que vous allez nous raconter.
Ah oui voilà, c'est une fille rencontrée dans un cercle d'amis.
D'accord.
Donc déjà, c'est aussi un souci supplémentaire parce que je suis amené à la revoir avec des amis, quoi, ou comme ça, quoi, dans des... Enfin, vous voyez, quoi, c'est assez embêtant parce qu'en fait, les autres personnes ne sont pas du tout forcément au courant.
Donc vous avez une relation avec cette jeune femme, mais personne ne le sait dans votre giron amical en fait.
C'est un peu ça, mais il a quand même fallu que je me confie à un ami assez solide quand même, qui connaît la personne, mais bon... pas plus que ça, mais voilà quoi. C'est...
Donc vous la connaissiez déjà ?
Non, bah non, en fait justement. Non, c'est ça un peu le paradoxe, on va dire, c'est que j'étais censé la connaître, mais en fait, c'est... D'ailleurs, on m'avait parlé d'elle, et elle, on lui avait parlé de moi.
D'accord.
Et du coup, ouais, c'est... Je sais pas, c'est... Ouais, ça a été un petit peu comme un petit coup de foudre, hein, la rencontre.
Donc c'était il y a un mois.
Ouais.
Vous avez entamé une relation.
Voilà, donc... là, je suis obligé de quand même donner des détails, parce que, mais bon, c'est qu'en fait, elle a des enfants, moi j'en ai pas.
D'accord.
Donc ça n'a pas facilité du tout la relation, en fait. Donc, par contre, quand on s'est rencontrés, la semaine qui a suivi, elle était sans ses enfants. Donc c'est là que ça a été vraiment le grand... Je me suis enflammé même, quoi, parce que bon, c'était tout beau, tout rose, quoi.
Ouais.
Vous voyez, quoi. Et après, il a fallu que elle reprenne aussi sa vie de mère.
Ouais.
Ce qui est normal, et puis ce que je respecte tout à fait. Mais du coup, en fait, c'est là qu'il a commencé à y avoir un petit peu, je pense, une petite distance, mais c'était normal que je la vois pas, et puis qu'elle me présente pas à ses enfants, bien sûr, tout de suite comme ça.
Oui.
Mais je pense qu'il y a eu des... Enfin, elle pensait, vraiment, c'est ce que je disais hier soir à Oscar, elle pensait vraiment plus passer du bon temps avec moi, et moi, je pensais vraiment... que c'était du sérieux, quoi. Voilà.
D'accord.
Pensais vraiment que il y avait quelque chose de réciproque, partagé entre elle et moi, même si on se disait pas forcément tout sans se projeter forcément dans l'avenir, mais bon, quand même, je sentais en elle quand même quelque chose de assez fort.
Oui.
Et après, en fait, j'ai vraiment ressenti que même quand elle était amenée à me revoir, ce serait plus pour passer du bon temps, en fait. Voilà, carrément.
Donc, rencontre, j'essaye de résumer, hein. Rencontre.
Ouais.
Je le note, hein. Rencontre. Semaine 1. Génial. Elle est toute seule. Elle n'a pas ses enfants. Donc, vous le saviez qu'elle avait des enfants ou pas?
Ah oui, non, mais là-dessus, il n'y avait aucun. Donc. Il n'y a eu aucun mensonge, hein, de toute façon, elle et moi.
Donc, semaine 1, génial, vous êtes tous les deux, franchement, vous profitez, c'est super. Semaine 2, les enfants reviennent en semaine 2, c'est ça?
Ah, il y a eu pire, c'est qu'il y avait des vacances qui étaient prévues, en fait, même. Déjà, de son côté, avec ses enfants, et ma part aussi, voilà.
Donc, semaine 2, vous êtes où? Chacun part de son côté en vacances?
J'ai failli vous dire le pays où c'est que j'étais. Je suis parti une semaine à l'étranger, moi, en fait, en vacances.
D'accord.
Ah, j'ai un peu du mal, à m'exprimer, mais bon.
C'est l'émotion, c'est normal.
Ouais, un petit peu, ouais, parce que aussi c'est l'histoire aussi quand même, parce que je sais pas trop finalement comment ça va évoluer. Donc, parce que quand moi je crois que c'est fini, puis que je me dis faut que je me fasse une raison, j'ai toujours l'impression qu'avec ces SMS, j'arrive à me rattacher à cette histoire, quoi. Donc voilà.
Donc vous êtes...
pardon, oui.
Je vous en prie. Donc vous êtes partis en vacances chacun de votre côté, c'est ça?
Ouais, en fait, c'est ça, quoi. Et
est-ce que pendant les vacances, là, Cédric, je vais essayer de vous aider. Je vous en prie, je vais essayer de vous guider. Donc semaine 2, vous partez en vacances. Il y a des échanges de SMS entre vous.
Mais justement, en fait, non, c'est ça le problème, c'est que c'est à la semaine 3, on va dire, comme vous.
D'accord.
Comme voilà. je suis votre. Voilà. Semaine 3, en fait.
On se fait un rétro-planning. Voilà. D'accord.
Elle me fait les reproches, en fait, que je ne lui ai pas assez envoyé de SMS pour prendre de ses nouvelles, plus régulièrement.
C'est mignon.
Alors qu'elle, en fait, aussi m'avait fait comprendre qu'avec ses enfants, fallait pas trop que je la dérange. Enfin, que je la dérange. Enfin, qu'elle n'allait pas pouvoir communiquer avec moi aussi facilement que la première semaine, qui était magique, on va dire.
D'accord.
Et en fait, c'est ça qu'a fait aussi dans les suites de cette troisième semaine. Si vous voulez, c'est qu'en fait, moi j'ai été un peu plus loin pour précipiter la qu'on allait se revoir aussi après qu'elle ait plus ses enfants. Et c'est là que j'ai carrément dit, donc là on en vient à hier soir, quoi. Je lui disais, mais j'ai quand même dû te manquer aussi pendant tant de temps. Enfin, c'était un peu bizarre. Ben, pas tant que... En fait, c'était comme si... je sais pas si elle a joué avec les mots, je sais pas. Et du coup, moi, j'ai été un petit peu dur aussi. Alors là, je lui ai dit ce que je pensais. Ben, je lui ai dit si... Oui, il faut que je vous dise ça quand même. C'est obligé, hein, c'est un peu extrême, mais... Elle m'a dit que, justement, c'est là que j'arrive pas bien à la cerner, parce qu'elle m'a dit qu'elle pensait que ce qui m'aurait intéressé avec elle, c'était juste les bons moments et qu'elle me mettrait avec une étiquette comme tous les mecs, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ?
Non.
Ben, que je pensais qu'à une seule chose, quoi. Voilà.
Donc, d'accord. Là, c'est plus clair. Alors, je peux pas penser ni à votre place ni à sa place.
Ouais, alors que je lui avais pourtant bien dit que c'était son charme qui passait avant tout pour moi. C'était des discussions que j'ai eues avec elle, partagées, parce qu'on a quand même beaucoup de points communs aussi sur le passé. Enfin, on échange beaucoup. Et en fait, voilà, suite encore à... Donc ça, c'était encore hier soir, donc là, le SMS là, et moi, je lui ai dit, bon, bah, si c'est vraiment dommage que tu penses ça de moi, et je lui ai dit ciao, quoi, en fait.
Ah, c'est vous qui avez rompu... Vous avez rompu ?
Ben, hier soir, en fait, ouais, je me suis dit, faut pas que... Parce que moi, vous savez, j'ai aussi des... Enfin, j'ai assez souffert comme ça, on va dire, dans ma vie, avec d'autres filles. Où c'est que là, par contre, c'était moi qui me faisais... j'étais quitté par l'autre personne. Donc là, j'ai pris un peu les devants, parce que je sentais pas du tout l'histoire, là. Et vous voyez, donc j'ai écouté la fin de l'émission hier soir, jusqu'à 1h. Donc j'étais dans ma voiture, après je suis reparti chez moi. Bien sûr, j'arrivais pas à me coucher et le téléphone il vibre et SMS d'elle. Je m'y attendais vraiment pas déjà que ce soit un SMS un petit peu qui voulait dire que en fait voilà, elle était dans l'attente de plus de SMS de moi, même si elle a ses enfants et que.
Ouais.
Elle me sentait distant, que... mais en fait, ça règle pas vraiment le problème de fond sur elle et moi, sur un avenir, mais quand même, ça... je me suis dit, non, faut... Alors, je lui ai répondu, je sais même plus ce que je lui ai répondu exactement, mais que... Enfin, je lui ai pas répondu dans le négatif, en tout cas... En continuant mon ciao, quoi. C'est là, j'étais plus à essayer de me justifier en fait sur le fait que, comme je vous ai dit, je voulais la laisser un peu tranquille. Je pensais parce que déjà avant, elle répondait pas forcément aux SMS à cause de ses enfants. Voilà.
J'essaye vraiment de vous suivre et de comprendre exactement.
Ouais, c'est pas facile.
Non, c'est. Alors oui, c'est pas facile parce qu'en fait, je n'arrive pas exactement à identifier quel est l'objectif ou ce que vous avez envie de quoi et qu'est-ce que vous venez chercher en m'appelant en fait. Donc il y a ces deux questions-là, c'est à la fois de quoi est-ce que vous avez envie et comment est-ce que je peux vous aider en fait ? Qu'est-ce que vous...
C'est clair, moi je voulais savoir ce que vous pensiez de ce qui pourrait m'attendre avec elle plus tard. En fait, le mieux...
Alors déjà, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, dans un premier temps, c'est de voir déjà ce qui fonctionne entre vous. Vous avez évoqué le fait qu'en semaine 3, hein, puisqu'on est sur un rétro-planning, en semaine 3, ouais. Vous avez reçu donc, des SMS de reproches parce que vous ne vous étiez pas suffisamment manifesté. Alors, c'est une façon détournée de dire « tu m'as manqué » ou « j'aurais bien aimé que tu me prouves que je suis importante aujourd'hui, que j'existe dans ta vie. » Donc, c'est plutôt un message positif, même si c'est détourné autrement sous reproche, en fait. C'est comme les phrases interrogatives négatives, donc je le dis également aux auditeurs, ont parfois un double message, en fait. C'est un peu comme si je vous disais, Cédric, t'as pas froid ? T'as pas froid, là, Cédric ? C'est en fait une façon de dire, c'est moi qui ai froid, en fait.
Ah ouais.
D'accord ? Bon. Eh bien là, quand je fais un reproche à une personne, c'est une façon de dire, en fait, tu m'as manqué, ou j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de tes nouvelles. Donc c'est plutôt...
Là, c'était clair.
Oui. Bon. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison est-ce que vous décidez de rompre ? Enfin, il y a plein d'éléments qui manquent.
C'était un peu sur le coup de la... De la déception de ce qu'elle me disait, en fait. J'ai voulu, je pense, accélérer... Non, je pense très, honnête, très, très, très honnêtement que j'ai eu peur de souffrir aussi en ayant vraiment un manque de confiance en moi et que, après, je perds un petit peu cette relation avec cette personne, quoi, en fait.
Elle vous plaît ?
Ben oui, c'est ça. Elle croit vraiment que c'est juste une seule chose qui m'intéresse. Voilà.
D'accord.
Ben, vous voyez, quoi. Alors que non. C'est ça.
Alors, certainement, parce que ça se passe plutôt bien aussi à ce niveau-là. Donc, ça doit être aussi pour ça qu'on peut se poser la question de se dire, est-ce que c'est uniquement ce paramètre-là qui peut fonctionner ? Je pense qu'en tout cas, elle a certainement besoin d'être rassurée sur... à ce que vous avez envie de construire avec elle, probablement, sur les projections que vous avez eues. Alors attention, parfois, hein, vous avez employé le bon terme, vous avez dit, je me suis peut-être un peu enflammée. Voilà, à vous de trouver le bon équilibre. Vous savez, parfois, quand une relation démarre, c'est un peu, c'est un peu bancal, parce qu'on en a envie, mais en même temps, on a des contraintes chacun. Hein, on peut avoir des enfants, un travail, une famille, enfin des parents dont on s'occupe, et puis ça vient un peu chambouler, surtout quand on ne s'y attend pas, ça vient un peu chambouler l'équilibre que nous cherchons à avoir, cette forme de stabilité. À vous de retrouver ou de trouver un équilibre avec cette personne. Ça fait très peu de temps que vous vous connaissez.
C'est ça, en fait. De toute façon, elle me l'a dit elle-même. Elle a plus d'expérience dans son statut familial, on va dire. Enfin, vie privée, c'est... Enfin, oui, le fait que moi, j'ai pas d'enfant puis qu'elle en ait... Elle a été mariée, hein. Donc, c'est pas rien, quoi. Donc, en fait, elle doit vraiment, je pense, aussi avoir de son côté très, très... c'est même pas de la peur, là, je pense, mais... Elle doit se dire, c'est comme vous dites, que c'est trop rapide, là, en si peu de temps, de pouvoir se dire un attachement, je pense.
Attachement, c'est au bout du 4e mois. On n'est pas attaché au bout de 3 mois. Je vais encore reparler du cycle des 3 ans, mais c'est 3 mois, et c'est à partir du 4e mois qu'on peut parler d'attachement, mais pas avant. Et puis l'amour, c'est au bout de 3 ans. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, Cédric. Apprenez à la connaître, échangez, voyez-vous en dehors de voilà, en plus des bons moments que vous pourriez avoir.
C'est dommage, c'est ça.
Faites connaissance avec cette femme.
Excusez-moi de vous couper, vraiment.
C'était
vraiment des moments intenses là, dans cette première semaine qu'on fait vraiment que... Le fait est qu'il fallait rien que plus ne plus voir pour ces enfants là, c'était dur à un point vraiment très 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 difficile. Je m'étais vraiment dit, je tombe amoureux d'elle. Il y a pas d'autre mot, hein, donc.
C'est la passion, ça.
Parce que, ouais, c'est ça, je sais, on dit courage, confiance, patience, mais là, j'étais... j'ai un peu honte de le dire quand même, parce que je suis un gars, mais j'en avais des larmes aux yeux de pas être vers elle après la première semaine, quoi. Et d'ailleurs, mes vacances, je pense, ne sont pas forcément si bien passées que ça, à cause de ma sensibilité, on va dire, plutôt, mais... Voilà, c'est...
Et donc être sensible,
c'est ça. Je pense que je suis sensible, pardon.
Oh, c'est grave d'être sensible.
Non, mais je suis trop sensible.
C'est, vous savez, on est ce qu'on est et on fait ce qu'on peut, hein, d'accord. Donc rassurez-vous de ce point de vue-là. Vivez ce que vous avez à vivre, profitez de tout ce qu'on vous donne, profitez de ce que vous allez donner également, vraiment. Apprenez à connaître cette personne avec qui, manifestement, ça passe plutôt bien. Vous avez des atomes crochus, donc profitez-en. Et puis, vous verrez ce que l'avenir vous réservera, vraiment. Qu'en pensez-vous ?
À suivre, hein, oui, c'est sûr. Oui.
Et restez confiant.
Oui, parce que rester confiant et éviter non plus que ça me perturbe trop dans ma vie de tous les jours, puis que ça n'a pas non plus d'impact sur ma vie professionnelle, quoi.
D'où l'équilibre, Cédric, c'est ce que je vous disais. Trouvez un équilibre. Et si franchement cette personne est importante à vos yeux, eh bien trouvez-le ensemble.
Ouais, d'accord. Bah écoutez, merci hein, en tout cas.
Je vous en prie.
De votre écoute, etc.
Et je vous souhaite de très très belles choses à vivre pour la suite.
Merci, j'aimerais bien vous tenir au courant.
Eh bien, voilà. Justement, je pense faire une soirée. Le 25 août, je finirai la saison sur Europe 1. Et je pense vraiment, mais je confirmerai ça probablement vendredi ou samedi.
Alors ça, c'est pas mal parce que voilà. Le 25 août, c'est son ultimatum, on va dire. C'est le week-end prochain, quoi, c'est ça?
C'est dimanche, voilà. Dimanche, oui, je vais faire un appel et demander à tous les auditeurs qui nous ont appelés de me donner des nouvelles, de savoir si, après les échanges, les conseils et tous les SMS qu'ils ont également reçus, les contacts, comment où ils en sont, voilà, un peu, que deviennent-ils?
Non, ce sera plutôt le dimanche soir, voilà. Parce qu'elle m'a... Elle m'a recommandé elle n'aura pas ses enfants et voilà, je devrais être vers elle.
Bon, alors vous nous donnez des nouvelles le 25.
Voilà, merci.
Bonne soirée Cédric.
Vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Europe 1,
23h, 1h,
la libre antenne, Sana Blanger.
Vous êtes bien sur Europe 1 et vous écoutez bien la libre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 39 21 pour nous contacter en direct. Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos SMS au 739 21 précédé du mot nuit. Alors concernant demain, je rappelle la thématique. La thématique tourne autour de la pression sociale. J'aimerais savoir comment est-ce que vous vous comportez face à toutes ces lois ces règlements, ces normes, ces conventions? Comment faites-vous pour prendre de la distance par rapport à tous ces modèles que nous impose la société? Ou encore, si vous ressentez que vous êtes une victime de la perfection collective, venez nous en parler demain. Donc, 39 21, on attend vos appels. Et tout de suite, nous accueillons notre prochaine auditrice et c'est Géraldine. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci. J'appréhende déjà.
Oh ben, tout va très bien se passer.
Oh là là. Dans quelle histoire je m'engage, mon Dieu Seigneur, dans quelle galère.
Racontez-nous, que se passe-t-il?
Ben voilà, ça fait depuis le mois de février. J'ai déjà appelé sur vos ondes. Bon, c'est pas vous que j'ai eu. Et j'ai écrit un petit message justement parce que c'est avec vous que j'avais envie de passer aujourd'hui.
Ah, merci.
Parce que vous avez une voix qui m'apaisait beaucoup.
D'accord, bah, merci beaucoup.
Et c'est important pour moi de continuer l'histoire avec vous parce que voilà, ça me tient à cœur.
D'accord, Géraldine.
Alors, l'histoire, c'est une jeune fille qui est arrivée dans la vie de mon fils il y a maintenant 7 mois. Elle est arrivée en février.
Oui.
Elle arrive de Maurice. Déchirée de l'école à 15 ans pour suivre un papa qui est malade. On le rapatrie à La Réunion, bref. Jusque-là, tout va bien. Un an passe, elle change d'école, parce que ça ne se passe pas bien dans l'école où elle se trouve. Et là, dans l'école de mon fils, et là, ils font connaissance, tout se passe bien. C'est un nouveau monde pour elle. Elle était en relation avec quelqu'un pendant un an, mais elle a changé d'opinion par rapport à ce garçon. Du coup, elle a laissé tomber ce garçon. Et puis, finalement, elle s'est amourachée de mon fils.
Oui.
Jusqu'à là, tout va bien. Hein. Mon fils est son premier flirt. Il a 19 ans bientôt.
D'accord.
Elle va avoir 18 ans.
D'accord.
Et bon, bah, je les accueille chez moi. C'est une copine d'école. OK, tout va bien. Un jour, deux jours. Et puis après, je commence à m'inquiéter. Je dis, ça serait bien d'appeler maman. On est en février, là.
Oui.
Ça serait bien d'appeler maman pour dire que tu es chez moi, que vous rentrez de l'anniversaire, que vous êtes trop fatiguée pour rentrer chez vous. OK, d'accord. Après, le lendemain, je la vois, elle est encore là. Je dis, bah, écoute, je vais appeler ta maman pour lui dire que voilà. Quoi, c'est moi, ça m'inquiétait quand même.
Mm.
Et elle me dit, non, non, il ne faut pas appeler maman. Maman est folle. Elle va appeler les gendarmes. OK, le mercredi arrive. Elle décide cette fois-ci d'aller chez mon ex avec mon fils. T'inquiète, je gère tout. On a tout prévu, le repas, le machin. Je dis, oui, mais le lendemain, il y a école. Moi, d'habitude, ça ne fonctionne pas comme ça à la maison.
Oui.
Une semaine passe et là, l'école m'appelle une fois, puis deux, puis trois, pour me dire que mon fils est toujours en retard ou pas là, en cours, ce que je ne comprends pas parce qu'il part tous les jours à l'heure.
Oui.
Et là, je découvre le poteau rose, en fait. Je finis par appeler l'école en disant, écoute, je veux mettre en relation avec la maman. Et ça tombait bien, la maman était en ligne à l'autre poste, à côté, avec l'autre secrétaire, en me disant, effectivement, madame, elle vous cherche aussi. OK, donc on nous met en relation. Je finis par la voir à l'école de mon fils. Et là, on discute. Et puis après, je l'emmène dans la classe de sa fille parce qu'en fait, j'ai appris qu'elle était en fugue.
Ah, d'accord.
Depuis une semaine. Donc, mon fils n'était pas au courant non plus. Je vais récupérer mon fils chez mon ex. On lui dit, ben, viens, on va nous emmener devant la salle de la gamine où elle se trouve. Là, on frappe à la porte. La professeure... elle vient ouvrir, on l'appelle discrètement et puis je présente la maman en disant, voilà, elle voudrait voir sa fille. Mais on avait peur qu'elle se ressauve, quoi. Du coup, la professeure amène l'élève au CPE et au CPE, on commence à discuter avec la mère, mon fils et la jeune fille. Et là, on essaie de crever l'abcès, quoi, comprendre pourquoi elle ne veut plus rentrer chez elle. Et elle dit que, ben voilà, chez elle, elle a le droit de rien faire, qu'elle allait rentrer de toute façon. Mais quand elle est quand même mineure, quoi, à ce moment-là.
Oui.
Et voilà, que l'histoire continue à s'enchaîner, les mois passent, les mois et encore des mois. Et là, il y a 15 jours, elle était dans un foyer. Parce que ses parents, son petit-père ne veut plus d'elle chez eux. Il dit que ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un magasin, ce n'est pas un centre commercial. Ici, on ne rentre pas, on ne sort pas. Voilà. Bon, je comprends aussi hein, les parents, hein, enfin, surtout le petit-père. Quoi.
Oui.
Mais bon, ils ont des droits et des devoirs vis-à-vis de l'enfant. Quoi. On ne peut pas laisser une gamine dans le chemin.
Oui, bien sûr.
Elle est encore étudiante, donc voilà. Et du coup, ben, comme ils veulent plus d'elle, mon fils, bien sûr, n'a pas voulu non plus rentrer. Donc, pour la soutenir moralement et psychologiquement, ben, il a dormi aussi avec elle dans le chemin.
Ah.
J'ai appelé le 115 il y a 15 jours, le 2 août, pour trouver une place impérativement pour elle, parce que je ne savais plus quoi faire. Moi, je ne dors plus hein, depuis le mois de février. Je fonds en vue d'œil. Hein. Et moi, ça m'inquiète, quoi, parce qu'elle entraîne mon garçon avec elle. Bon, je sais, c'est la première flirt, c'est une première histoire. Ils sont amoureux, il faut les laisser vivre. OK, il faut les laisser se casser la figure. OK. Mais au bout d'un moment, il faut dire stop, réveillez-vous, quoi, les jeunes, là. Vous allez vous mettre à dos tout le monde. Et du coup, ben, 15 jours de foyer, 2 jours avant, là, mercredi, là, 15, je finis par renvoyer, à force de harceler mon fils, de leur demander s'ils veulent venir manger à la maison le soir. Ils m'ont dit oui. Là, ils viennent manger le soir, je discute et je dis, écoute, ça ne peut pas durer. Dans 2 jours, c'est la rentrée. Comment on fait ? Tu ne peux pas rater ta rentrée scolaire, ce n'est pas possible. Du coup, je lui dis d'appeler le foyer pour lui dire qu'elle ne rentrera pas le mercredi soir. Elle me dit, OK, elle dort chez moi le mercredi. Le jeudi, j'ai dit, écoute, vous faites votre journée. Et après, tu préviens maman, il faut que tu rentres impérativement chez toi. Ce n'est pas possible. Et du coup, sa maman, elle finit par envoyer un message, un modèle, pour qu'elle elle envoie le modèle à son père pour lui dire qu'elle s'excuse et tout. Mais bon, on sent bien qu'elle n'a pas envie, quoi. Elle en a marre, quoi, de devoir ramper à chaque fois parce qu'il ne veut pas qu'elle sorte, il ne veut pas qu'elle fasse ci, il ne veut pas qu'elle fasse ça. Mais elle suit tout le temps. Elle dit qu'elle rentre le mardi et une semaine après, elle n'est pas rentrée. Elle a fait le même vers le mois de juin. Elle va ramener des livres le mardi, elle n'est jamais revenue. Elle est rentrée que le dimanche soir. Ben, après, le dimanche soir, on ne veut plus d'elle chez elle, quoi. Petit père, il a dit stop, c'est fini, moi, je ne veux plus. Et comme la maman est d'origine mauricienne et qu'elle est en statut pas française, c'est compliqué, quoi. Elle ne peut rien dire parce qu'elle a encore un frère derrière. Donc, si elle déconne, elle peut être mise à la rue aussi. Du coup, bah, elle ne bouge pas. Et la gamine est livrée elle-même.
Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est
et
compliqué.
Là, aujourd'hui, enfin, ils ont fait leur rentrée vendredi. Hein. Vendredi, j'ai assisté à tout, hein. J'étais là-bas. Hein. Je n'ai pas quitté l'école,
bah oui,
j'ai fait 8 heures d'école. Je ne dis pas le travail. J'ai vu les proviseurs, j'ai vu le CPE, j'ai vu tout le monde, j'ai vu l'assistante sociale. J'ai réussi à la faire accepter en tant que boursière, chose qu'elle n'a pas le droit puisqu'elle n'a pas de statut français. Enfin, ils ont débloqué une bourse pour la cantine.
Elle devient presque.
Elle mangeait pas.
Elle devient presque votre fille par procuration.
Bah voilà, parce que moi, elle tire mon fils, moi, derrière elle, voyez.
Et, oui,
et lui,
bien
il a, lui, il la vénère, quoi. C'est Dieu pour lui. C'est Dieu. Lui, il faut la sauver, quoi. Il ne peut pas la laisser comme ça. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je ne vais pas laisser non plus. Moi, je bouge derrière. Même si ça dérange, même si ça perturbe beaucoup la maman. La maman, elle ne comprend pas pourquoi je me mêle de tout, de leur vie de famille et tout.
Ouais.
Et moi, elle est avec mon fils, moi. Donc, je me sens concernée.
Et votre...
La non-assistance à personne en danger, sinon.
Et puis, en même temps, votre fils est un digne héritier de vous-même, puisque vous... Eh oui, mais oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait,
je veux sauver le monde.
Mais c'est ça. Il a une cape de super-héros, mais comme vous, en fait, Géraldine.
C'est moi, je suis comme ça aussi. C'est
mais
ma
voilà,
nature.
Ça fait pas. Et manifestement, vous avez transmis ça à votre fils, au-delà des sentiments.
Quel cadeau.
Oh, mais c'est vraiment.
C'est beau, hein.
Mais bien évidemment que c'est beau. Mais... Heureusement qu'il y a encore des gens comme vous. Sinon, elle serait où,
ouais,
cette fille?
Bah, il a crevé son plan épargne, hein, quand même. Hein.
Ouais.
Pour 2 mois, 4 000 euros en 2 mois.
Aïe, aïe, aïe. Bon.
Ah, ils ont vécu, hein, ils ont bougé. Hein, la Réunion, c'est pas grand, mais ils ont bougé. 8 000 kilomètres en 2 mois.
Alors, j'ai loupé un épisode. Ils sont partis sur l'île de la Réunion?
Bah, et oui, on est à la Réunion.
Ah, vous m'appelez de l'île de la Réunion?
Et oui, madame.
Ah, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas du tout. Eh ben, j'embrasse.
La Réunion depuis 20 ans.
Ah, d'accord. Bon, ben, j'embrasse toute la Réunion alors et les Réunionnais. Ben, merci beaucoup.
Voilà.
Je suis d'autant plus. Bon, donc,
oui, oui.
Donc effectivement, là, c'est presque une deuxième fille que vous avez par procuration.
Ouais, je suis obligée de tout gérer, quoi.
Ouais.
Et là, j'ai réussi à lui obtenir une place à l'internat.
Ah, bravo.
Pareil, hein. Y en a pour 2 000 euros, hein, d'internat. S'il fallait payer, je ne sais pas où est-ce qu'on trouve l'argent, mais voilà. J'ai réussi à sauver ça. Donc voilà, je sais que lundi, l'approviseur va la voir pour lui proposer sa place dans l'internat. Il faut qu'elle signe un dossier. Normalement, je devais être sa tutrice. Et jusqu'à ce matin, finalement, ça a changé d'avis parce que la demoiselle ne veut plus que je sois la tutrice. Elle me dit « je ne suis pas sa mère ». Ça, je le sais. Mais bon, au départ, l'approviseur, quand je l'ai vu vendredi, m'a dit « il faut un tuteur ». Eh bien, j'ai dit « je m'engage ». Même si ça va me coûter. Elle me dit « les moindres conneries, c'est vous qui allez payer ». Ben, je dis « je sais, mais il va bien falloir trouver une solution ». Donc, je m'engage à être sa tutrice. Et à les récupérer tous les week-ends chez moi.
Vous
et
êtes...
là, le hic, c'est que ce matin, quand je suis allée voir les enfants dans la voiture, je leur ai dit, alors, vous venez avec moi, parce que là, je vais reparler un petit peu. Et puis en même temps, j'avais été offrir une fleur à l'approviseur. J'ai fait une petite composition ce matin de mon jardin et je l'ai amenée.
Ouais.
Elle était ravie, d'ailleurs.
Ouais.
Et ils m'ont dit, non, mais je ne veux pas que tu te mêles de ma vie. C'est bien, tu m'as rendu service, tu m'as aidée, tu m'as ouvert des portes. Mais maintenant, je me débrouille toute seule. Ah, OK. Bon, bah, du coup, je réexplique tout ça au proviseur. J'ai dit, bah, maintenant, qui c'est qui va être la tutrice? Parce qu'il faut impérativement un tuteur. Et j'ai dit, est-ce que la maman, c'est possible? Parce que normalement, en principe, des cas comme ça, c'est quand il y a eu une enquête qui est menée, si la fille est malmenée par les parents ou le petit père, tout ça, c'est ce qui se passe. De toute façon, il y a maltraitance à enfant. Hein.
Alors justement, Géraldine,
on fait une enquête.
J'allais vous poser la question, est-ce que vous êtes en contact avec les parents de cette jeune fille?
Parce que j'y suis allée, moi, j'ai ouvert des portes, hein, moi, même si on m'a interdit, hein, je suis allée. Je suis allée voir sur place, j'ai été interroger le petit père, il m'a dit effectivement que voilà, il ne veut plus la voir. Ça ne l'intéresse plus, elle est instable, c'est pas un hôtel chez moi, elle ne comprend rien, elle n'obéit pas, elle n'en fait qu'à sa tête, elle est effrontée, elle est têtue, voilà. Et là, elle a eu 18 ans le mois de juin, je ne vous dis pas depuis 18 ans, là, elle a des ailes, hein, ça y est. Et la maman, c'est pareil, hein, j'ai essayé d'être en contact avec elle, mais là, elle m'envoie des messages, tu fous le bordel dans notre vie, c'est à cause de toi que tout ça, ça va plus, avec le petit père et tout, c'est pas vrai, hein. Je vous assure que j'ai rien fait, moi j'essaie juste de sauver tout le monde, voilà, de leur sortir la tête de l'eau, et puis que là, il y a l'école, il faut impérativement qu'elle reprenne ses études, elle peut pas, sinon elle va être envoyée à Maurice, elle va être envoyée dans son pays. Elle a été sauvée, elle a été repêchée, elle avait 53 absences, normalement elle devait pas être reprise dans le lycée dans lequel elle est aujourd'hui. On me l'a bien dit hier et aujourd'hui.
Alors,
la seconde chance pour cette gamine.
Oui. Sans remettre en question.
Et là, cet après-midi, ils sont allés traîner à la plage et il y a eu un accident et ils ont fait 9 heures d'urgence. Là, ils viennent juste d'arriver et je suis dans ma voiture en train de vous parler. Vous voyez un peu le truc? Pour pas qu'ils m'entendent, pour pas qu'ils se disent de quoi elle se mêle en fait.
Alors, je voulais savoir ce que vous pensiez de la réaction de la maman.
Ben pour moi, je trouve que c'est pas une maman. Je suis désolée, madame. Je comprends pas. Je me suis battue, je me suis enfiée avec mon fils, il avait 4 ans. J'étais battue pendant 13 ans par mon ex. Et j'ai pris le courage de partir parce qu'il a levé la main sur mon fils.
Je comprends. Donc en
j'ai
fait,
galéré. Hein.
Donc en fait, cette force-là, vous l'avez acquise, si
j'ai
je
vécu.
Puis dire, voilà, par
j'ai
la
vécu,
force.
J'ai vécu à l'âge de 18 ans quand mon père m'a mis dehors. Et je l'ai revécu quand on a frappé mon enfant, qui avait tout juste 4 ans en 2004. Donc j'ai dit, ça ne peut pas continuer, quoi. Il faut couper ce cercle vicieux. Et voilà, quoi. Et j'ai pris le courage de m'enfuir avec mon garçon. J'avais 0 centime. J'avais rien sur moi. J'avais 0.
Et maintenant?
Et pourtant, je suis là aujourd'hui à vous parler. Je suis installée dans ma voiture. J'ai une maison depuis 15 ans que j'habite avec un propriétaire formidable. Et je fais grandir mon fils du mieux que je peux avec mes petits 1000 euros par mois.
Ouais.
Mais je m'en suis sortie. Quoi.
Bravo.
Et je ne comprends pas pourquoi elle ne se bat pas, cette maman. Je ne comprends pas. Quoi. Et les proviseurs, de toute façon, m'ont dit, hein, vous n'avez rien à projeter, madame. Vous n'avez rien à projeter. Et ils disent que s'ils étaient toutes comme vous, les mamans, ben bravo, quoi. Bravo. J'ai pleuré dans ses bras encore ce matin. Il me dit non, mais soyez forte aussi et protégez-vous. Protégez-vous.
Oui, ça c'est une évidence. Il faut vous protéger. Après, ce qui est toujours là où on peut se poser la question, c'est quand même cette relation mère-fille, ou en tout cas avec ses parents, parce que par conséquent, c'est vous qui faites tout et tout à leur place en plus. Donc, il y a quand même de la responsabilité derrière. S'il se passe quoi que ce soit, je peux imaginer que, faut faire front.
Là, vous voyez, ils étaient aux urgences. Heureusement que mon fils, il l'a emmené. Elle a chuté. Elle a été emportée par une forte houle. Elle s'est explosé le dos. Et ben, où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent chez moi. Vous voyez? Là, ils sont chez moi.
Ouais.
Ils viennent d'arriver à 2h du matin chez moi. Ils n'ont pas été l'emmener là-bas chez elle. C'est chez moi qu'ils sont. Si j'étais pas là, comment on fait là?
Eh bien, justement.
Dormir dans la voiture, blessée et tout.
Oui, oui.
Sa mère, elle ne comprend pas tout ça. Je ne suis pas là pour voler sa fille, moi, au contraire. Je veux qu'elle la reprenne. Je veux qu'elle la reprenne et que je revive une vie tranquille et sereine. Mais là, il n'y a plus rien de serein. Depuis des mois, il n'y a plus rien de serein. Quoi.
Alors, manifestement, vous êtes le seul lien qui reste entre eux, la seule passerelle qui reste entre cette fille et ses parents.
Exactement.
Donc,
si je l'avais pas sortie du foyer, elle y serait encore, elle serait mise à la rue parce qu'il devait l'expulser dans un autre endroit de l'île, de la Réunion, parce que c'est que 15 jours qu'ils prennent en charge, pas plus. Alors, sinon, après, il faut payer 200 euros par mois. Ben, elle n'a pas de sous, comment voulez-vous qu'elle fasse? La mère, elle n'en a pas, la fille n'en a pas. Comment on fait? Comment on fait? Et si je fais rien, elle va être envoyée dans son pays, ça je le sais. Et ça va déchirer le cœur de mon fils. Et c'est sa première copine, il n'a jamais eu de copine avant, et là, moi je les vois, quand je les vois à deux, je vois bien qu'il est heureux, qu'il est épanoui, il rigole, ils sont enfants, c'est des gamins.
Donc vous faites ça pour votre fils en fait?
Ben, je crois que même si elle sortait pas mon fils, avec mon fils, je pense que je le ferais parce que j'ai toujours été comme ça avec ses camarades.
Oui.
Avec ses camarades de classe. Quand il y avait le moindre souci, c'était chez moi, il se confiait, il parlait facilement avec moi. Toujours. Et je leur donnais des conseils. Je les guidais.
Alors, en parlant de conseils, justement, vous nous avez dit en préambule que vous aviez déjà appelé au mois de février.
Oui, parce que je voulais les séparer et
voilà,
on m'a déconseillé.
Quel conseil vous avait-on donné ?
De les laisser vivre leur expérience, ne pas m'interposer.
Ce que vous avez fait ?
Ce que j'ai fait après.
Ouais. Et ouais. Vous en êtes là aujourd'hui ?
Après, j'ai appris qu'ils allaient se marier au mois de juillet.
Ah oui, d'accord.
Qu'elle voulait un bébé et qu'ils voulaient se marier parce que c'était le seul moyen pour elle d'être reconnue française. Là, j'ai pété un câble aussi, j'ai appelé la préfecture, j'ai demandé comment on fait pour stopper un mariage de convenance, un mariage blanc, un mariage gris, je ne sais pas comment on les appelle.
Mariage blanc.
Et après, quand j'ai eu une dame qui fait les ondes de Freedom, ici sur notre île, elle donne des conseils, elle m'a dit, écoutez, c'est simple, si vous envoyez cette lettre, c'est la dernière fois que vous verrez votre fils. Si vous vous mettez à dos, puis vous empêchez qu'il se marie, vous allez le perdre définitivement. Du coup, j'ai pris ma lettre et puis j'ai déchiré. J'ai pas envoyé.
Ah oui.
Parce que c'était mon but de dénoncer, quoi. Tout le monde autour de moi me disait, mais non, il faut pas les laisser faire, on peut pas laisser faire, c'est pas possible, quoi. Ils sont jeunes et c'est pas concevable.
Et est-ce que cette jeune fille...
Finalement, j'ai laissé tomber.
Est-ce que cette jeune fille est vraiment irresponsable dans son comportement ?
Je pense qu'elle a un problème psychologique, oui, à régler. Oui, je pense qu'elle a été déchirée de son pays, de là où elle était.
Ouais.
Trop violemment, pas préparée, parce que le petit père, il avait un problème de cœur. Donc, il fallait le rapatrier sur la Réunion pour le faire soigner, parce que là-bas, c'était trop cher les soins.
Ouais.
Et elle n'a pas été préparée, cette gamine. Elle a été arrachée, elle avait 15 ans, au lycée, dans lequel elle était. Elle était une élève studieuse, elle peignait, elle faisait de la planche à voile, elle faisait de la couture, elle cuisinait, elle s'occupait bien de l'intérieur de la maison. Et arrivée ici, voilà, elle déconne à l'école, elle ne va pas à l'école, elle prend les courriers, elle les met dans sa chambre, elle les cache. Il n'y a plus rien qui va. Rien qui va.
Okay.
Alors, je pense que c'est ça.
Où elle vit, tout simplement.
Elle est tombée enceinte l'année dernière, en décembre.
Ah, mince.
Elle a subi un avortement.
Mm. Oui. Oui, donc sans l'autorité...
Moi, je suis un peu perdue maintenant.
Vous êtes perdue par rapport à la suite ?
Oui.
Bah, vous
je
ne
sais plus quoi faire, moi.
Pourtant, vous gérez bien. Vous avez réussi à la...
Oui, je gère bien. Je gère bien. Mais c'est ce que je me mets tout le monde à dos, quoi. Je me mets la famille, je me mets sa mère. Elle croit que je manipule dans son dos aussi. Même la gamine, elle m'a envoyé encore un coup de fil juste avant son accident, je vous assure. Elle m'a appelé à 16h32.
Ouais.
À 17h08, mon fils m'appelle, maman, on est aux urgences. Elle a glissé, elle a été emportée par une houle. On est allé au gouffre. Et paf, c'est comme on est en période de vigilance forte houle depuis quelques heures, là.
Ouais.
Et ben voilà, elle a été fascinée par les vagues, elle a été, et puis elle s'est emportée. Et mon fils, il avait peur, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein. La mère n'était pas belle, mais non, c'est pas pourquoi elle a pris le risque.
Bon, quelle serait la solution dont vous ne voulez surtout pas entendre parler ? Où vous vous dites, je ne l'envisage même pas.
Ben déjà, la grossesse. Si je l'ai bien dit, va pas tomber enceinte parce qu'elle prend plus de temps. Elle n'a plus de stérilet, lui a enlevé son stérilet, comme elle a fait deux fois les urgences en l'espace de 15 jours. Elle avait un stérilet après la grossesse, après l'avortement, pardon. Donc, là, elle l'a enlevé et il ne se protège pas en plus. Combien de fois je disais à mon fils, surtout tu te protèges, hein, tu ne fais pas ça sans préservatif. Hein. Eh ben non. Donc, elle fait l'amour sans préservatif, elle n'a plus de stérilet, je ne vous dis pas. Donc, déjà, pas de grossesse. Ça, c'est sûr, parce que c'était les conditions que je lui avais mises ce matin, hein, parce qu'il faut que je fasse un petit texte hein, quand même, quand je fais la tutrice, d'accord. Mais moi, il y a des conditions, il y a des règles, il y a un cadre chez moi, je ne peux pas laisser tout faire.
Non, mais vous avez raison.
C'est pas possible, sinon elle va me bouffer.
Non, mais vous avez raison, un cadre, il faut le préserver. Et puis ensuite, je le dis tout le jour, hein, l'autorité égale sécurité. Donc surtout, chers parents, chers auditeurs, si vous avez des enfants, ne culpabilisez pas si vous êtes autoritaire. Hein, c'est aussi un cadre et on a besoin de se développer également. Et heureusement qu'on est en sécurité à la maison. Donc il faut surtout
preuve,
pas...
Vous voyez, hein, ouais. De l'hôpital, ils reviennent où ? Ils viennent à la maison.
Ben voilà.
J'ai toujours dit, on m'a bien dit, surtout ne ferme pas la porte. Hein, parce que Je ne vais pas la fermer, de toute façon, c'est mon gosse et mon sang. Non, je me suis battue pour l'avoir. Maintenant qu'il est là, je ne vais pas le jeter. Quoi. Le problème, c'est que maintenant, je me retrouve avec une deuxième gamine qui, moi, elle me tire vers le fond. Quoi. Je suis obligée à chaque fois de ressortir la tête de l'eau, reprendre une bonne bouffée, de me requinquer et puis de repartir au combat. Quoi. Parce que c'est un combat, là, que je mène, je vous assure. Hein. Un vrai combat. Hein.
Mais est-ce que ce combat... c'est pas aussi une façon pour vous de vous occuper quelque part?
Ah ben aussi quelque part, oui. Ben, sinon je fais de la couture, je fais du jardinage, je fais du bricolage. Mais là franchement, là j'ai tout mis en stand-by pour elle. Hein.
Parce que vous ne travaillez pas en fait, Géraldine?
Non.
D'accord. En revanche...
J'étais dans la restauration pendant 15 ans et après bon, j'ai suivi mon compagnon en Nouvelle-Calédonie, La Réunion. Et puis là j'ai des problèmes d'arthrose très violents. Donc voilà, je dois me soigner. J'ai 3 AVC en moins de 4 ans, 5 ans maintenant, ou 6 ans. J'ai commencé en 2011 mes AVC à répétition, là.
Oui.
Et là, je sais que si j'en refais un, il sera peut-être violent, quoi, celui-là. Parce qu'au bout du quatrième, vous savez, il y a des séquelles. Hein. Même si je descends arriver.
Vous vivez seule ?
C'est toujours contraignant. Oui.
D'accord.
Je suis très bien. Je suis très bien.
Est-ce que vous faites le point avec votre fils ?
Seul. Ben, ça arrive, mais il veut pas m'entendre.
Ah oui.
Il veut pas, il met des barrières, il met des verrous partout. Non, je me mêle de ce qu'il ne me regarde pas. C'est ma vie. Il m'a écrit un petit poème 2 jours avant mon anniversaire. C'était le 5 août, mon anniversaire.
Oui.
Quand ils étaient en fugue, j'avais plus de nouvelles d'eux. Je vous dis, quand il m'a dit « va voir dans ta boîte aux lettres », il m'a envoyé un message. « Va voir dans ta boîte aux lettres ». Il est 11h30 du matin, le samedi. Et là, il y a une phrase écrite « Maman, tu es un rare diamant ». Grâce à toi, je vis. Je ne vais pas pleurer. Hein. Je vais essayer de ne pas pleurer.
Et moi aussi, je vais essayer de ne pas pleurer.
Malgré tous mes problèmes, je t'écris ce petit poème pour te dire que je t'aime. Et voilà. Et j'ai retrouvé ça dans ma boîte aux lettres le samedi matin. Et je sentais qu'il y avait des soucis. Je le sens, hein, ça se sent. Hein. Une maman sent ces choses-là, mais je peux rien faire, quoi, parce que c'est impuissant, parce qu'il verrouille tous mes messages, il verrouille mon numéro, il verrouille mes appels, et puis c'est elle qui aussi gère le téléphone, puisqu'ils ont un téléphone pour deux, donc quand elle n'a pas envie qu'il voie certains messages, bah, elle supprime, elle met sur éject, elle met sur spam, voilà. Mais je sens qu'elle est un peu dangereuse quand même, cette gamine, je vous assure. Hein.
Et déléguer un petit peu la situation, c'est-à-dire, puisque votre fils...
À qui ?
Ah ben, votre fils. Puisque vous faites ça pour votre fils, on est d'accord. Votre fils a 19 ans.
Bientôt dans un mois.
Bon.
Même pas.
Je peux comprendre que vous ne soyez certainement pas prête encore à couper le cordon. Et c'est certainement pas moi qui vais vous dire, Géraldine, il faut couper le cordon. C'est pas mon propos. Mais en revanche, le responsabiliser aussi sur la situation, eh bien, ça vous permettrait peut-être de ne plus penser aussi à sa place, mais véritablement de voir quelle projection ce qu'il a aussi envie de faire avec et comment il se projette avec cette jeune femme. Et même à 3, de les mettre face à leurs responsabilités et de leur dire « Mais si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez ?» Est-ce que vous leur avez déjà posé la question, Géraldine, si vous étiez à ma place ?
J'ai déjà voulu faire une table ouverte avec tout le monde autour, avec la mère, la fille, mais chacun est dans son coin, ils ne veulent pas. Je ne sais pas de quoi ils ont peur d'ailleurs. Hein. Peut-être que des vérités sortent, que là il dit un truc, l'autre ne dit pas autre chose.
Pas grave.
Bref, parce que c'est beaucoup de mensonges tout ça derrière. Hein.
Ça c'est en tout cas votre ressenti. Mais ce qui peut être vraiment intéressant, et pertinent à ce stade, quand même, ne serait-ce que par respect, pas pour toute l'énergie que vous mettez pour eux quand même, c'est de les rassembler et de tous les 3 envisager un programme, un planning. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de rétro-planning avec Cédric, mais c'est un peu ça. C'est voilà, mes enfants.
Ben, c'est ce que je voulais faire, hein, je vous assure. Hein, je lui ai envoyé un texto tout à l'heure à la maman. J'ai dit, écoutez, on se retrouve autour d'une table, on discute tous les 4.
Oui.
Mais elle dit non, je ne veux plus te parler.
À vous ?
Oui.
Mais pour quelle raison ?
Parce que je me mêle de leur famille.
Ah.
Parce que je me mêle de leur famille. Ben oui. Parce que j'ouvre des portes qui dérangent. Je fais sortir des squelettes de placard. Ça dérange.
Ah, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, effectivement.
Et ben oui, ben moi je suis quelqu'un qui dit les choses. Je suis cash, moi. Moi j'étais apprise comme ça.
Mais tout le monde ne vous
même
ressemble pas.
Même s'il doit me prendre des râteaux, mais...
Vous voilà. Mais justement, Géraldine, vous, vous êtes forte. Vous, vous êtes en capacité de tout pouvoir entendre parce que vous avez vécu des choses où, franchement, voilà, on se dit, quel courage. Après, vous avez des personnes qui ne vous ressemblent pas et qui ne sont... Ces personnes-là ne sont pas prêtes à tout entendre.
Et, mais comment on fait pour avancer après ?
Bien justement.
Moi, je veux bien les aider, mais après, qui pousse tout le monde derrière, là, c'est à part moi. Mais je sais que je ne lâcherai pas la petite. Hein. Je ne lâcherai pas, je ne la laisserai pas tomber. Tant qu'elle ne sera pas dans son internat en sécurité, je ne la lâcherai pas parce qu'elle a subi des violences verbales, elle a subi des violences physiques. On lui a enfoncé un stylo dans la main il y a 3 semaines. Son petit père lui a enfoncé le stylo dans la main. En colère, je ne sais pas, il a pris le stylo, paf, il lui a enfoncé dans la main. Il lui a troué la main.
Oui.
Il se fait traiter de péripatéticienne, mon fils de proxénète. Oui.
Parce que leur fille leur échappe. Parce que vous êtes sur un modèle qui n'est...
Quand même, on ne dit pas des choses comme ça.
Ah mais c'est... J'explique juste, j'essaye de comprendre.
Oui,
hein. Je ne alors là, je ne cautionne absolument pas le geste du papa, hein, je précise. Je suis juste en train d'essayer d'imaginer la colère et effectivement les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Il doit vous trouver extrêmement intrusive. Et puis, si on parle de l'île Maurice, sur l'aspect culturel, c'est pas la même chose que la Réunion.
Bah, je ne connais pas l'origine mauricienne, mais enfin... Moi, je suis du nord de la France, hein. Je suis une ch'ti.
Ah, bon. La seule recommandation qui me vient en tête, c'est d'essayer, en tout cas, de ne pas perdre ce contact avec les parents, de faire en sorte vraiment de... Même si on communique mal, je le dis tout le temps, mais...
Ah, bah, il vaut mieux. Hein.
Il vaut mieux, si c'est exactement
bon,
ça.
Au moins, c'est dit. Au moins, ils sont au courant, dans tous les cas.
Oui.
On ne peut pas dire qu'on ne les aura pas prévenus. Hein.
Et vraiment, de responsabiliser tout le monde. Vous ne pouvez pas tout porter sur les épaules. Tous ces singes-là que vous avez, c'est pas possible. Ah, c'est l'image, mais j'aime bien cette image.
Parce que là, la proviseure, vous savez ce qu'elle m'avait dit ? La proviseure m'a bien dit, hein, ce matin encore, hein, normalement, il y aurait dû avoir enquête sociale. D'après ce qu'elle a dit à la psychologue la veille, il devrait y avoir enquête sociale. Parce qu'elle s'est confiée et j'ai demandé à être présente. Et là, elle a dit des choses, quoi. Hein, qu'elle n'a pas le droit d'aller se servir dans le frigo, que la bouffe, elle n'a pas le droit d'y toucher. Donc, elle ne mange pas, cette gamine, quand elle est chez elle. Elle rampe, elle va dans sa chambre, elle doit se faire toute petite. Pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas être vue, pour ne pas croiser le regard de son beau-père. Et quand la proviseure m'a dit là je le fais parce que je vous fais confiance, j'ai dit je vous assure c'est la vérité, je ne vous invente rien. Du coup elle ne mène pas d'enquête, mais normalement il devrait y avoir une enquête sociale. C'est pour ça qu'elle s'engage aussi, elle prend des risques, mais j'espère que tout va bien se passer d'ailleurs dans l'internat parce que tout le monde a peur quoi maintenant. Mais c'est leur rôle aussi d'intervenir et de ne pas laisser une enfant si on la sent en danger chez elle.
Oui.
Donc voilà. Elle l'accueille dans l'établissement scolaire.
Oh oui, c'est
un cadeau. Franchement, bravo à cette proviseure. Hein. Franchement, bravo. Je vous dis ce matin, je ne savais plus quoi dire pour la remercier et tout. Elle me disait que je n'avais pas à le faire. Même la plante, je n'avais pas à le faire. Mais si, bien sûr que si.
Ah oui, non, vraiment. Non, mais c'est sûr que pour l'amour de votre fils, ce que vous faites est vraiment admirable. Ça, c'est une évidence. Après...
J'ai des mamans autour de moi qui ont décroché, hein, je vous assure. J'ai des mamans qui ont décroché, hein, qui ont fermé leurs portes à leurs enfants, à leurs filles ou à leurs garçons. Et moi, je ne peux pas, j'y arrive pas. Pourtant, j'avais dit que j'allais être forte, que je n'allais pas céder. Vous voyez, je suis là dans ma bagnole, eux, ils sont là, ils sont rentrés des urgences, ils sont au chaud. Et c'est tout ce qui compte, quoi. C'est tout ce qui compte.
Bon, alors, qu'est-ce que...
Même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas.
Ouais. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, alors, du coup ?
Et ben que tout ça va rentrer dans l'ordre et très vite et que ce que je fais c'est pas inutile quoi, que j'espère que ça va pas me retomber dessus après en me disant ouais tu as vu. Non, je voudrais que plus tard on me dise merci d'avoir été là et merci de ne pas nous avoir lâchés quoi.
Mais justement,
c'est pas de la reconnaissance, hein, que je cherche, hein, pas du tout, hein. Je reste dans mon coin, je fais les choses avec le cœur, mais j'ai peur des conséquences qu'il puisse y avoir après, quoi. J'ai peur de me mettre vraiment tout le monde à dos, et c'est ce qui se passe. Et je me dis, pourtant, je fais rien de mal. Au fond de moi, j'ai pas l'impression de faire le mal, quoi.
Mais c'est pas le cas.
J'essaie juste de trouver des solutions.
Oui, c'est exactement ça. Mais c'est des solutions par rapport à votre prisme, votre ressenti, votre expérience, votre vécu. Ça, c'est une évidence. Après, il faut laisser une fenêtre sur ouverte, surtout ouverte, sur ce que vous dit la famille de cette jeune fille. Vraiment.
Oui, oui, bien sûr.
Même si vous n'acceptez pas, mais au moins être en capacité de les entendre. Ça, c'est important.
Ah ben, j'écoute, hein, au contraire. Hein, je dis surtout pas de choses déplacées, ni par texto, vous savez, parce qu'aujourd'hui, on se sert des messages, hein, attention. Hein, on enregistre, on se sert des messages. Je veux rien, je veux pas que ça tombe sur le coin de ma figure, quoi. Non, je reste toujours polie. Pour toi, je dis les choses telles qu'elles sont, avec des mots polis, avec des phrases simples, mais efficaces, quoi. C'est tout, hein. Et jamais j'irai dire des choses, ni inscrire des trucs qu'il faut pas, quoi. Surtout pas, Non. Mais c'est des réalités, je n'invente rien. Ce ne sont que des faits, je ne relate que des faits.
Bon, pour le moment, en tout cas, vous semblez avoir fait ce qu'il faut faire. Et puis...
Ouais, je vous remercie, parce que j'avais besoin de l'entendre, hein. Je savais pas...
Ouais, non, vraiment, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui se passerait ? Vous voyez ? Ne serait-ce que cette...
Ah ben...
Voilà. Donc, juste ça, ça peut vous rassurer sur tout ce que vous avez initié. Ensuite, vraiment, seul le temps vous donnera raison ou tort. Mais toujours est-il que, vraiment, par rapport à votre fils, en tout cas, c'est... j'espère qu'il se rend compte de la maman incroyable qu'il a, ça c'est une évidence.
Ben, il ne le sait pas, il ne le voit pas encore. Mais enfin, il sait que la preuve, là, il a besoin, je réponds présent. Je ne le laisse pas tomber, je ne ferme pas ma maison, je reçois, je veille toute la nuit, vous voyez, depuis 5 heures du soir. Je veille, j'attends. Je ne mange pas, j'attends. Peut-être qu'ils vont me demander de descendre, peut-être qu'il va falloir que j'intervienne, peut-être qu'il va falloir que je ramène des vêtements à l'hôpital. Et là, ils sont rentrés, ils sont là. Demain, je discuterai. Je vais essayer de voir un petit peu dans la voiture, après discrètement, pendant qu'ils dorment, les radios, ce qu'il y a.
Oui.
Si elle a des choses de graves, parce qu'il faudra quand même prévenir sa maman. Hein. Même si elle dit, il ne faut pas que je me mêle, mais il faudra qu'elle le fasse, hein, parce que c'est quand même important. Si elle a des choses abîmées, cassées, des soins, elle ne pourra peut-être même pas faire sa rentrée lundi.
Bon, croise les doigts. Géraldine, j'ai reçu 2 SMS pour vous. Si tous les parents étaient comme cette maman, il y aurait peu d'enfants au foyer. Chapeau pour votre bienveillance et l'amour pour votre fils. On reconnaît bien là l'esprit ch'ti. Barbara, merci. Barbara, que j'embrasse au passage. Et puis deuxième SMS qui n'est pas signé, mais je vous le lis. Cette maman est formidable. C'est une vraie maman. Elle assume son rôle mieux que personne. 1000 bravos à elle et courage. Il faut qu'elle continue à soutenir son fils.
J'étais une ex-alcoolique, hein, voyez un peu,
ouais.
Ex-toxicomane, dépendante des médicaments, et depuis 1997, j'ai tout arrêté. Et depuis 1997, je n'ai plus jamais rien touché.
Bravo.
Donc voilà, quoi. Et j'ai un mental. C'est vrai que des fois, les gens me disent « Ah oui, vous avez un sacré mental ». Et parfois, je me dis « Mais je ne sais pas de où je tiens ça. Est-ce que c'est de ma grand-mère ? Est-ce que c'est de ma maman ? Je ne sais pas. »
D'où cette force ?
Enfin, je l'ai.
D'où cette force.
Elle est là en moi.
Eh oui, je comprends encore plus. Et puis surtout, bien évidemment, il y aura des gens qui vous diront « Oui, c'est pas bien, de quoi elle se mêle, etc. » Que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, on vous critiquera toujours. Donc, faites ce qui vous semble, écoutez votre cœur et faites ce qui vous semble le plus juste. D'accord ?
Merci.
Moi, je vous embrasse et je suis tout cœur avec vous.
Ben, je vous en prie. C'est gentil, merci infiniment.
Merci Géraldine.
Au revoir.
Et
Europe 1, la libre antenne.
Sana Blanger.
Nous recevons tout de suite Daniel. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci. Alors, en fait, j'avais appelé hier pour réagir un peu à... je pense que c'était Michel hein, qui parlait du diabète.
Oui, absolument.
Et justement, j'ai appelé parce qu'en fait, dans la même journée, je m'étais dit, tiens, il faudra que j'appelle la libre antenne pour parler de ce que je traverse. et qui concerne le diabète. Et je me suis dit, bon, c'est un signe, donc voilà, là, j'appelle. Voilà, voilà.
Eh bien, vous avez très bien fait.
Voilà. Donc, en fait, je vis une expérience en ce moment, depuis 8 mois. Je vais être très synthétique, hein, comme on a peu de temps. En même temps, voilà, il y a 2 choses que je voudrais faire passer.
Oui.
Voilà. Je vis une expérience depuis 8 mois. C'est-à-dire qu'après plusieurs difficultés que j'ai accumulées, j'ai du diabète avec insuline depuis 42 ans, donc depuis que j'ai 17 ans, avec des accidents de parcours, coma, arrêt de traitement pendant 2 ans. Enfin bon, j'ai fait tout et n'importe quoi, voilà. Et donc là, après des difficultés que j'ai traversées, burn-out, dépression, là, il y a 2 ans, plus divorce, je me suis dit, bon là, soit je m'effondre, soit je me secoue. Voilà, donc je me suis secouée et j'ai décidé, voilà, de travailler en fait sur le stress, la tranquillité et l'équilibre. Parce qu'en fait, c'est là que j'ai découvert que le diabète, c'est un symptôme de déséquilibre. Et pour alléger le poids qui est représenté pour moi, j'ai travaillé sur l'équilibre. Et donc, en fait, je fais du coaching et je travaille avec des masques. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser cette méthode avec moi, puisque je le fais avec d'autres, ça marche, pourquoi je ne le ferai pas avec moi? Et en 8 mois, j'ai obtenu, en fait, l'équilibre de mon diabète que je n'avais pas depuis 15 ans. C'est-à-dire que j'ai pratiquement plus d'hypo et d'hyperglycémie, c'est-à-dire pratiquement plus de variations de sucre, parce que c'est ce qui est le plus épuisant dans le diabète, c'est quand on passe par des variations de sucre. Et j'entendais ce monsieur qui parlait la panique quand on dit le mot insuline. J'expliquerai après pourquoi il y a, enfin, d'où a débuté mon travail là-dessus. Ça fait des années que
d'accord,
j'y réfléchis.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est comme si ça avait été un aboutissement, en fait, finalement, ce que j'ai fait là pendant 8 mois, cette année. Et qui, bon voilà, donc ça a débouché sur l'équilibre, la gestion du stress, c'est-à-dire que je suis arrivée maintenant à différencier une situation de stress et le stress que je prenais à mon compte et que du coup j'alimentais. Donc
d'accord,
ça, je peux contacter des situations de stress, mais ça ne rentre pas en moi. Je ne génère pas du stress et donc le diabète reste à l'équilibre. Parce que, voilà, on a toujours peur de vivre des situations de stress. Ça, on dit, ça va déséquilibrer le diabète. Oui, si on prend le stress à notre compte. Voilà, c'est ça ce que j'ai découvert. Donc, en cheminant comme ça, voilà.
Alors,
et du coup, je vis des choses très belles.
Alors,
vraiment magnifiques.
Est-ce que vous voulez nous offrir un petit peu un avant-goût, si je puis dire, de... alors, c'est
la
bien
méthode.
Oui, les méthodes, puisque j'en entends deux. Vous avez bien parlé de masques.
Oui.
Alors, qu'est-ce
oui,
que c'est?
En fait, c'est une méthode que j'ai mise au point après beaucoup, beaucoup d'expérience, parce que je viens du théâtre, après j'ai été formatrice, j'ai fait des projets dans l'innovation sociale, je suis HP aussi, hein, voilà.
D'accord.
Ça veut expliquer certaines choses, donc je fais plein de projets que j'aboutissais pas, que j'abandonnais, machin. Et le diabète a joué vraiment un rôle délétère, hein, dans ma vie, parce qu'il m'enlevait toute la confiance que j'avais en moi, parce qu'à cause des hypo-hyperglycémies, je me sentais pas fiable.
Oui.
Donc j'avais plein d'envie, et puis à un moment, je laissais tomber. Donc en fait, j'avais aidé une amie avec des masques, parce que j'ai beaucoup étudié les masques selon l'école Lecoq, Jacques Lecoq, qui utilisait beaucoup les masques. Et quand j'ai fait du théâtre, j'ai compris que ça me parlait, mais à un autre niveau que le théâtre. Ça me touchait vraiment profondément.
D'accord.
Mais bon, c'est resté comme ça, ça s'est fait en 81, c'est resté comme ça à l'état d'hypothèse. Et puis donc, j'ai été amenée à les utiliser, à faire du bouffon, enfin différentes choses qui à chaque fois me faisaient avancer sur moi. Et puis, donc en fait, ce que je fais, je m'appuie sur les coups de Carl Rogers, sur la Gestalt aussi, le cycle de croissance. Donc en fait, dans mes séances, je me mets en accompagnement, c'est-à-dire que c'est les personnes qui ont la main. Moi, comme ça m'évite de faire des projections. Par contre, je travaille beaucoup sur mon intuition, je suis très à l'écoute, parce que le masque, qu'on appelle le maître du masque, c'est, il faut juste regarder, observer et écouter. Voilà, et moi, ça me va très bien avec mon potentiel, parce que j'ai les sens très aiguisés. Donc, ça me va très bien.
Daniel,
là, je suis très à l'aise.
Ce masque, en fait, c'est un masque neutre avec juste...
Alors, non, j'utilise plein de masques, en fait, parce que les personnes, en fait, elles vont poser un besoin. En fait, je travaille sur la résolution de difficultés. Voilà. Donc, elles vont poser un besoin, je discute avec elles, et un besoin va émerger. Parce que souvent, elles arrivent avec un besoin, mais c'est peut-être pas celui-là qu'on va traiter.
D'accord.
Voilà, c'est celui qui va émerger qu'on va traiter. Donc, je discute, on discute ensemble, et puis à partir de ce besoin posé, je propose aux personnes d'aller trouver la ressource, parce qu'en fait, je travaille sur les ressources intérieures, c'est là-dessus que j'ai travaillé pour le diabète, hein, pour faire émerger mon équilibre, voilà, j'ai trouvé différents masques. Donc, on va chercher le masque qui va permettre à ce besoin d'être satisfait. Et on va voir ce qui va se passer. Et moi, je propose une situation, une mise en situation, mais la personne peut en proposer une autre, qui va faire qu'elle va se mettre en action. Ce sont les personnes qui agissent. Moi, je ne sais qu'accompagner. Et puis, je vais pointer, je vais prendre des notes sur ce qu'elles disent, parce que c'est presque parfois comme des auto-hypnoses. Les personnes ne se rappellent pas ce qu'elles ont dit avec les masques. Voilà. Et donc, j'utilise le masque nœud, j'utilise le nez rouge, j'utilise des demi-masques en plastique, j'utilise des masques de personnalité en carton, il y en a plein. D'accord. Et ils sont tous exposés. Et puis, les personnes vont se laisser presque choisir par le masque. Il y a un masque ou plusieurs qui vont émerger. Et on peut mettre 4 masques des fois dans une séance parce qu'on va déboucher sur quelque chose qui va amener à autre chose, etc. Et le but, c'est de faire émerger ces ressources profondes qui vont nous aider à traverser et à trouver des pistes de solutions. Voilà, en fait, le trajet. Donc c'est ce que je fais depuis 8 avec moi sur l'équilibre, d'accord, le stress. Et donc, et j'ai travaillé en fait, du coup sur la généalogie, enfin bon, c'est impressionnant.
Et cette méthode-là, si je comprends bien, c'est pas uniquement, on n'isole pas le diabète, vous l'utilisez également pour d'autres besoins.
Ah mais pour tout. Et c'est pour ça que moi, j'avais même pas fait le lien avec le diabète. Et c'est un jour, je me suis dit, mais d'accord, pourquoi t'essaierais pas avec mais toi, oui, donc voilà. La difficulté, c'est que je m'accompagne en même temps, donc je prends des notes en même temps que je suis avec le masque, parce que le masque parle, donc je prends des notes, et après j'analyse. En fait, c'est ce que je fais avec les patients, on analyse ce qui a été vécu. Et donc, moi, j'analyse à chaque fois mes étapes.
Oui, vous pourriez même vous filmer, d'ailleurs. Voilà. Vous pourriez même vous filmer, si vous...
Oui, j'y avais pensé. Ouais. C'est pas impossible. Mais là, j'ai rempli un cahier de tout ma frère. Et je me régale. Franchement, c'est des expériences extraordinaires. Et en même temps, il n'y a rien de magique. Parce que ces puissances, ces qualités, on les a en nous. Oui, c'est drôle parce que, voilà, j'avais fait la réflexion, on parle souvent du cercle vicieux. Par exemple, quand on dit quelqu'un, bah voilà, j'ai eu un problème, bah après c'est la chaîne, alors j'en ai eu un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça, tout le monde le comprend. Mais on n'imagine pas la même chose pour le cercle vertueux. Or, c'est la même chose. Quand il nous a fait une bonne nouvelle, un truc positif, on l'alimente avec un deuxième, va arriver un troisième, et c'est ça l'évolution que j'ai pu faire avec l'obtention de l'équilibre, j'ai diminué mes doses d'insuline de moitié et enfin mon diabétologue reconnaît, parce qu'au début elle me disait ben non, ça c'est pas possible, ben si, voilà, j'ai 42 ans de diabète mais mon diabète va mieux que quand j'avais 18 ans, voilà. Donc quand j'entends dire moi des médecins que ça va forcément se dégrader, les effets délétères machin, ouais. Non. Donc, et ça c'est le deuxième volet.
Donc vous l'avez testé sur vous. Et, c'est, ouais, et ça marche. Maintenant,
ah, mais ça marche.
Vous en avez parlé à un diabétologue. Et est-ce qu'éventuellement, vous avez envie d'aller plus loin dans cette méthode-là et vous dire, je demande à une personne diabétique, je la prends comme cobaye et je vois ce que ça donne.
Ah, mais j'adorerais. Et justement, c'était aussi, voilà, ce que j'aimerais, c'est rentrer en contact avec des personnes. Parce que j'aimerais faire un groupe de travail. C'est-à-dire que c'est intéressant à la fois en individuel et en groupe. Oui. Parce qu'il peut y avoir des échanges d'expériences. Parce que le travail, justement, ce dont les personnes qui ont du diabète, moi j'en suis persuadée parce que je le vis, ce qu'on a besoin, c'est d'être considéré comme une personne à part entière, c'est-à-dire avec son propre vécu. Moi, mon vécu n'est pas le vécu d'une autre c'est personne sûr. Qui a du diabète. Or, il y a une globalisation. Par exemple, moi, depuis le début, depuis que j'ai 18 ans, je me suis toujours élevée contre voilà, des choses, l'injustice, le machin dont vous parliez hier. Voilà. Et donc, par exemple, je n'ai jamais accepté qu'on me dise que je suis diabétique. Je dis que j'ai du diabète. Et la différence est énorme, parce que mon identité n'est pas d'être diabétique. Mon identité, c'est d'être une personne. Et quand je dis « j'ai du diabète », eh bien, je peux entendre que peut-être un jour, je ne l'aurai plus. Et c'est très important parce que ça génère l'espoir. Parce que quand on a du diabète, l'annonce qu'on nous fait, et j'en ai parlé dernièrement, moi, c'était en 78, mais j'ai parlé avec des personnes, elles m'ont raconté la même chose et elles ont du diabète depuis 3. Donc, on continue à dire les mêmes choses. On nous dit, on prend le paquet, c'est-à-dire, attention, vous avez du diabète, c'est très grave, vous allez être traité à l'insuline, c'est à vie, donc vous ne guérirez pas. Et attention, parce qu'il y a le risque des effets délétères si vous ne vous responsabilisez pas. Ça veut dire cécité, amputation et problème cardiaque. Et après ça, on doit se responsabiliser. Mais je ne sais pas comment si on ne génère pas d'espoir. Donc ça, c'est une injonction terrible pour les personnes qui ont du diabète. Et forcément que l'insuline ne va pas être un ami. Elle peut pas, parce que on est condamné. En fait, c'est présenté comme une espèce de condamnation, et malgré tout, on doit être très heureux de vivre. Donc, c'est compliqué. Et moi, ce que je travaille, c'est justement se réapproprier notre histoire, le vocabulaire, changer le vocabulaire, de façon à ce que on génère de l'espoir, on génère de l'envie et du cercle vertueux. Et moi, à l'âge que j'ai 60 ans, je n'ai aucun effet délétère. Aucun. Mon diabète régresse. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je voulais vous soumettre, un truc très intéressant psychologiquement, c'est qu'à force de baisser mon insuline, à un moment, j'ai eu une crise de panique. Ah, c'est très étonnant. Parce que j'étais sur le travail de l'équilibre. Je voulais être sur l'équilibre. Et à un moment, le matin, je faisais plus d'insuline. Je faisais 2 unités à midi, ce qui est pratiquement rien. Et 5 le soir. Enfin bon, bref, quelque chose de dérisoire. Et c'est profilé en moi la possibilité de guérison. Et c'est ce que j'aimerais depuis des années. Et bien là, ça a généré une crise de panique. C'est-à-dire, je me suis mis à avoir de la tachycardie, je suffoquais. Et là, bon, alors après, j'ai calmé par une séance de maths, j'ai compris ce qu'il y avait derrière. Mais mon médecin m'a dit, vous avez fait une crise d'angoisse d'anticipation. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que j'ai du diabète. Eh bien que même si j'en ai envie, eh bien je me heurte, parce qu'on m'a tellement dit c'est impossible de guérir. C'est quelque chose, on ne le considère même pas, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible qui me traverse malgré moi. Parce que j'y étais proche, je le sais, j'étais proche de la guérison. Et hop, le lendemain, hyperglycémie, j'ai dû remettre de l'insuline. C'est incroyable. Moi, je trouve ça, c'est fascinant, parce que c'est comme si mon corps s'était défendu de « Ah non, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire, là? Ça fait 42 ans qu'on est comme ça, où tu vas ?» Donc, voilà. Et donc, je suis à cette étape-là. C'est très intéressant, ça me réjouit parce que je me dis j'ai encore plein de choses à découvrir, mais ça m'a vraiment étonnée c'est quand j'avais vu ma dernière examen, enfin qui était vraiment formidable quoi. Même mon médecin m'a dit mais vous n'avez jamais eu d'aussi bons résultats. Et la panique.
En plus c'est confirmé par votre médecin, là il y a vraiment peut-être effectivement une piste à suivre.
Donc, voilà.
Nous pouvons faire appel aux auditeurs atteints du diabète, si éventuellement ils sont intéressés de vivre l'expérience auprès de vous, pourquoi pas?
Le faire aussi par WhatsApp, parce que j'ai fait une séance de masque avec ma fille par téléphone, ça a marché, c'est génial. Donc ça veut dire il y a un champ ouvert, mais super intéressant quoi.
Et sur le volet... Oui, pardon.
Et même si des personnes, je me dis c'est bon, peut-être pas possible, mais si une personne qui avait du diabète a guéri. Qui avait de l'insuline. D'ailleurs, je ne dis jamais non plus insulino-dépendante. Je dis que je suis traitée à l'insuline parce que je ne veux pas être dépendante. Ça aussi, c'est important. On dit insulino-dépendant. Et je ne dépends pas de l'insuline.
Oui, c'est le terme technique, en fait.
Voilà. Ouais. Et le pancréas, on ne doit pas non plus dire qu'il ne fonctionne plus quand on a du diabète. Ce n'est pas vrai. Il fonctionne. La preuve, le mien se remet à fonctionner puisque je baisse l'insuline. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on dit qui sont véhiculées, y compris par les malades. Et il ne faut pas. Il faut essayer de résister à ça et se créer un autre langage porteur d'espoir et d'envie.
Ben merci, c'est très Danielle. Important. Alors, il nous reste quelques minutes. Le volet numéro 2, parce qu'il y avait deux méthodes. J'en ai entendu une avec le masque et la deuxième.
Le volet numéro 2, c'était, je voulais parler du vocabulaire qu'on peut transformer parce qu'il enferme. C'est un vocabulaire enfermant. Même quand on parle, vous savez, quand des gens n'ont plus de diabète pendant un moment, alors le médecin dit bien, ça va pas durer. Hein. Ça veut dire que le pancréas peut se remettre à fonctionner. Alors on dit que c'est dans les 5 premières années. Moi, ça m'est arrivé après 10 ans de diabète, donc même ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout le monde. Et alors, on appelle ça, je trouve ça génial, la lune de miel. Et on nous dit, la lune de miel ne va pas durer. Ça veut dire que même dans le diabète, on a une notion du mariage catastrophique. Parce qu'après la lune de miel, on redevient malade. Donc, je ne sais pas si les médecins mesurent la portée du vocabulaire qui est utilisé. Et qui, pour le coup, est délétère. Là, pour le coup, oui. Ça fait du mal. Mais je ne vois pas l'intérêt. Générons de l'espoir. Voilà.
Et ce message était plus que porteur d'espoir, en tout cas. Bien évidemment, il faut garder, hein, je précise, et on va rassurer, vous savez, les auditeurs en leur disant que vous continuez à être suivi par un médecin, bien évidemment.
Ah, mais bien sûr, bien sûr. Et elle me fait complètement confiance. Du coup, j'ai acquis la confiance et c'est moi qui gère. elle, voilà, elle sait que je gère mes doses d'insuline, je me soigne, je fais. Vous savez, j'ai même réussi dans ces 8 mois, et ça, je vous le dis pour les personnes qui ont du diabète, à complètement supprimer mon addiction au sucre que j'avais depuis l'âge de 18 ans. Oui. Je n'ai plus d'addiction au sucre. Ça veut dire que je ne lutte même plus pour ne pas manger de sucre, parce qu'évidemment, c'est dangereux avec le diabète. Donc, je n'ai même pas à ne plus manger de sucre, à me priver. Je ne me prive pas.
Merci beaucoup, voilà. Daniel. Un grand merci
donc,
pour votre témoignage.
Donc, si des personnes veulent m'appeler, évidemment, voilà. Ça sera
on
avec grand plaisir.
Je vous embrasse.
Bon, c'est très gentil. Merci beaucoup.
Bonne nuit, Daniel.
Bonne soirée, Sana.
Merci.
Au revoir. Bonne nuit, même.
Bonne nuit. Un grand merci à Pauline, Cédric, Géraldine, Pascal, Daniel, Barbara, Kat, toutes les personnes qui sont intervenues ce soir. Je vous donne rendez-vous demain 23h. Et là, vous avez rendez-vous tout de suite avec les dossiers extraordinaires de Pierre Belmar.